Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
C'est avec grand plaisir qu'on accueille ce matin l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Ça fait plaisir de vous recevoir ce matin, puis je vous promets, ça va pas ressembler à un point de presse après une pratique ou après un match.
Ah, mais je te remercie.
Est-ce que c'est lourd, tous ces points de presse que vous avez à donner, là, puis répondre souvent aux questions pourquoi on n'a pas gagné, puis pourquoi tel joueur n'a pas performé?
Ben, c'est ça, c'est demandant, mais... Puis tu sais, avec le nombre de personnes, de médias qui sont là, c'est beaucoup de questions, mais moi, qu'est-ce qui me reste à faire ce job-là, c'est que je sais que je parle pas aux médias. Je parle au public, à nos fans. Fait que je prends ce job-là au sérieux parce que je pense que la communication avec nos fans est très importante. Je veux qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on essaie de faire. Je sais, c'est une franchise historique qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, qui essaie de ramener ça sur ce chemin-là. Fait que je prends ce job-là au sérieux parce que c'est important qu'ils sachent que c'est qu'on fait.
Pourquoi vous avez dit oui la première fois que l'opportunité s'est présentée de devenir coach du Canadien?
Ben, pourquoi j'ai dit oui? Je te dirais que j'étais au stade de ma vie avec mes enfants, que j'ai été retiré 7 ans, puis moi, c'était important que je sois avec eux autres. Puis je trouvais que j'avais mes deux plus vieux, ils s'en allaient de la maison l'année d'après. Fait que ma femme était capable de gérer mon plus jeune de 15, 14 ans dans ce temps-là, parce que lui aussi, il joue au hockey. Fait que ça, parce que si mes enfants étaient plus jeunes, j'aurais pas pu faire ça. J'aurais pas laissé
mais
ma femme.
C'est un souhait, un objectif
oui,
de
sais.
Devenir entraîneur.
Oui, mais tu me demandes, ouais, toujours. Mais tu me demandes pourquoi que j'ai dit oui. C'est où le stage j'ai été avec ma famille, un.
Tu as rendu le bon moment.
Exactement. Deux, c'est le Canadien. OK, j'ai grandi ici. Je sais c'est quoi ça représente. C'est mon équipe favori. Puis toi, mais tu sais, j'adore le hockey. J'adore le hockey. C'est vraiment ma passion.
Mais Montréal, c'est un défi.
Mm-hmm.
Hors du commun, on l'a un peu décrit tantôt, là, mais c'est une pression. Et surtout, avec un club, je regardais encore les prévisions de certains experts, là, est-ce qu'ils vont faire les séries, font pas les séries, 30e et tout ça, là. Comment vous prenez ça comme entraîneur, là? C'est, j'entends pas, je regarde pas, je me focus sur mon équipe, ou si, veut pas, ça vient un peu vous affecter?
Ouais, je peux pas dire que ça m'affecte. Tu sais, dans tout, toute ma vie, j'ai eu bien des critiques. Puis moi, c'était toujours juste du bruit. C'est juste du bruit, puis je mets mes écouteurs, puis je continue à avancer. Tu sais, le monde, ils vont avoir leurs opinions, puis c'est correct. Ça fait partie de ça, mais j'ai toujours mis... La plus grosse pression que j'ai eue, c'est jamais été la pression extérieure. J'ai toujours mis beaucoup de pression sur moi-même. Pas au point que je suis stressé ou que j'ai de l'anxiété, mais j'ai toujours compris c'était quoi le travail. Que c'est comment qu'il fallait que tu travailles pour atteindre le succès. Il n'y a rien qui arrive avec de la chance. Tout arrive avec les choix que tu prends.
Pensez-vous au hockey 24 sur 24? Ou ben, mettons 22.
Ouais, je dirais que mes enfants, ils risent de moi beaucoup parce que je compare tout au hockey. T'sais, comment que. Parce que pour apprendre, aider mes enfants à apprendre à conduire. Pour moi, conduire, c'est du hockey. Faut que tu saches.
Comment vous leur montrez ça en termes de hockey?
Ben, c'est parce que faut que tu comprennes que la game en avant. Faut que tu saches qu'est-ce qui se passe en arrière. À quelle vitesse que faut t'exécuter tes mouvements. Fait qu'il rit beaucoup de moi. T'sais. Comme je te dis, c'est pas loin de 24 sur 24.
Mais vous avez une approche qu'on voit pas chez beaucoup d'entraîneurs. Moi, je suis pas un expert en hockey, là, mais j'ai pas vu ça souvent. Et cette approche que vous développez, puis je fais entendre un exemple. Quand vous dites, là, vous avez dit, je pense que c'est l'an passé, aux joueurs, amuse-toi. Ouais. T'as pas là, le coach là, qui regarde les joueurs d'en haut. Là.
Amuse-toi.
Juste comme ça, amuse-toi. C'est arrivé comment? Vous dites, je vais créer un climat dans le vestiaire?
Ouais, tu sais, la job du coach, c'est d'aller chercher le plus qu'il peut de ses joueurs. Puis il y a des différentes manières de ça, de faire ça. Mais moi, je sais que ces gars-là qui arrivent dans la nationale, il fallait qu'ils soient passionnés du hockey, okay, pour arriver à ça, parce que c'est pas facile. Fait qu'il faut vraiment avoir une passion spéciale pour te rendre là. Puis j'ai vu bien des entraîneurs tuer des passions des gars. Puis un coup que tu tues la passion d'un gars,
il arrête. Tuais ça comment?
Je sais pas. C'est différent. Tu sais, c'est.
Vous, avez-vous été confronté à un entraîneur qui aurait pu tuer votre passion?
Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, des fois, c'est pas beaucoup de temps de glace puis pas beaucoup de communication. Fait que, là, mais OK, mais tu sais pas où ce que t'es. Tu sais pas où ce que t'es. Parce que, tu sais, moi, ça me dérange pas que, tu sais, mettons, j'ai commencé sa quatrième ligne puis je jouais pas beaucoup. Là. OK, je suis correct, mais c'est quoi? Y a-tu un plan? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer? Peux-tu m'aider? C'est quoi je peux faire pour essayer de m'en gagner plus? Tu sais? Fait que si le manque de communication des fois, puis la sévérité, tu sais, puis...
Isoler des joueurs, peut-être.
Peut-être, ouais, tu sais, ça tue la passion des boys. Fait que moi là, je veux que les gars s'amusent, OK? Mais ça veut pas dire qu'on est sérieux, là.
T'sais? Qu'on n'est pas sérieux.
Exactement, ça veut pas dire qu'on n'est pas sérieux. On s'amuse, mais c'est sérieux ce qu'on fait. Mais il faut le faire dans un environnement, puis, tu sais, il faut... T'sais, je le dis tout le temps, tu sais, que tu gagnes ou tu perds le match... Le lendemain, là, faut que tu recommences. Tu sais, fait que si t'arrives à l'aréna le lendemain, puis t'as pas une attitude positive, parce que le passé, il t'écœure encore, mais ça va être dur à continuer d'avancer.
Avez-vous découvert ça tout seul? Avez-vous suivi des cours de motivation, de coaching?
C'est un peu de tout. Tu sais, c'est ma propre expérience. Je pense que c'est, honnêtement, la manière que j'ai été élevé. Mon père, ma mère, c'est du monde tellement, tellement positif. S'il n'y a jamais de problème, il y a toujours des réponses. Je pense que ça a été ingréné.
Ça vous a été transmis par vos parents.
Exactement. Là, tu sais, là, graduellement, mais constamment. Il n'y a jamais de problème. Fait que c'est pour ça. On perd le match, on est déçu, c'est correct. Écoute, on ne sera pas parfait. Puis les réponses, c'est partout, il faut les trouver. Mais si t'as une attitude négative, là, mais ça va être dur à trouver réponse, puis des fois, tu trouveras pas les bonnes.
Vous seriez pas du genre Babcock, puis dire à vos joueurs, amène-moi donc ton cellulaire, puis partage-moi tes photos?
Ben, je pense que ça serait pas mon style.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ça?
Ben, c'est dur, je connais pas tous les faits. Tu sais, fait que c'est pas quelque chose que j'aime de parler d'une autre organisation. Fait que je vais laisser ça comme ça.
Est-ce qu'il faut être prudent avec des jeunes joueurs, des gars à l'époque où vous étiez un joueur actif, les coachs pouvaient s'en permettre? Aujourd'hui, il y a bien des choses qui ne passent plus.
Ben, je pense dans la société aussi. Mm-hmm. Je pense qu'il faut évoluer. Je pense qu'on est dans une bien meilleure place. Pas juste le côté coaché hockey, non. Je passe en société, puis je sais, il y a encore des conflits et tout, mais je pense qu'on est plus sensible à l'humain, côté humain.
Je vais vous faire entendre un extrait d'un point de presse. Vous en donnez tellement, plus que François Legault. Non, mais c'est vrai, vous êtes plus présent. François Legault a moins de comptes à rendre que vous, des fois. Vous n'avez pas l'impression?
Ah, mais je sais pas, ça c'est dur. Je connais la mienne.
Elle est assez chargée. La fameuse question des chaises, j'ai trouvé ça. Puis ouais. J'ai essayé de comprendre. Moi, je suis pas un expert en hockey, mais on écoute l'extrait. Puis
tu veux toujours aller chercher la meilleure chaise que tu peux avoir. Faut que tu sois réaliste aussi. Qui est assis dans quelle chaise en avant de toi? c'est d'essayer de prendre une chaise puis jouer le rôle de cette chaise-là, mais toujours en essayant de monter de chaise. Mais il faut que tu comprennes un peu le rôle que des fois, un entraîneur a besoin de te faire jouer. Mais faut pas t'aies peur d'aller voler une chaise. Que tu sois un gars de l'Amérique américaine, il y a toujours bien des chaises qui se font voler.
Ça voulait dire quoi? Prends ta place?
Ouais, tu sais, puis moi, je pense qu'une des qualités que j'amène pour coaching national, c'est que je comprends ça beaucoup, le terme de la chaise, parce que j'étais ça, moi.
Un peu ce que vous disiez, quatrième trio.
Ouais, j'ai joué tous les rôles. Okay, j'ai été un gars de la Ligue américaine, j'ai été un gars dans les estrades en Ligue nationale, j'ai été un gars sur la quatrième ligne, j'ai été un All-Star. Fait que je comprends ça, t'sais. Fait qu'il y a bien des joueurs. T'sais, quand moi, au collège, j'étais un gars très, très offensif. Dans la Ligue américaine, très, très offensif. J'arrivais dans la Ligue nationale, mais je jouais sa quatrième ligne quand j'ai commencé. Fait que là, t'sais, si tu comprends pas, OK, c'est à quatre, mais faut t'apprendre à tuer des punitions, faut que tu montes ta valeur sans marquer des buts. Ça va, ça, marquer des buts, c'est juste du extra, ça. T'sais, faut que tu saches comment jouer à la game défensive, faut que tu sois physique, t'sais, bien des détails, t'sais, fait que j'ai compris ça, puis que j'ai graduellement, on m'en a donné plus graduellement, mais si j'avais pas compris ça, puis si j'avais juste l'attitude, oh, j'en reviens pas, je suis pas sur le power play, puis je suis pas ici, j'en reviens pas, je joue 9 minutes, non, moi j'étais... Donne-moi 9 minutes, m'a donné qu'est-ce que je peux avec 9 minutes, puis tu vas vouloir m'en donner 10 demain, t'sais, fait que
Puis tu vas me redonner ma place parce que je t'ai donné ce que tu voulais.
Exactement. Puis là, puis tu sais, tu gardes une bonne attitude, puis tout. Mais là, on m'a amené l'entraîneur, mais tu sais, il n'y a pas le choix de te donner une chance d'une meilleure chaise. Tu sais, mais ça, c'est mérité. Puis c'est mérité pendant longtemps. C'est pas mérité après 2 semaines. Ces choses-là, voler une chaise, c'est mérité. Là. C'est du jour. C'est la constance que qu'est-ce que t'amènes pendant longtemps. Puis des fois, elle m'a dit de quoi, M. Arcand? Tu sais, moi, je le dis tout le temps, est-ce que t'es capable de sprinter, OK, sans savoir la distance qu'il faut que tu y ailles? OK? Ça, c'est une belle expression que j'ai entendu dire. Ça veut dire, je ne sais pas combien de temps que ça allait me prendre pour prendre ma place. Mais il y a un moment donné, par exemple, il y a quelque chose qui va flipper, OK? Là, puis c'est, OK, c'est... Parce que quand tu vas à travers de ça, c'est tu te dis... Combien de temps ça va s'apprendre? Combien de temps ça va prendre, OK? Mais il y a un moment donné, là, que ça flippe, là, puis là, oh tabarouette, comment loin je peux amener ça? OK? Parce que ce feeling-là, là, de comment loin tu peux amener ça, là, c'est un feeling écœurant. OK? Mais c'est parce que faut que tu fasses ta job quand t'es dans la...
Faut que tu travailles.
Faut que tu fasses ta job quand t'es dans le moment de combien de temps ça va prendre, puis comment long tu veux sprinter sans savoir la distance.
J'écoute parfois ce qu'on appelle des masterclass d'anciens entraîneurs, basket, football. C'est pas les techniques, plus, je dirais, l'approche de leadership qu'un entraîneur doit avoir. Avez-vous des modèles? Avez-vous des gens que vous regardez ou avec qui vous avez déjà peut-être travaillé? Là, vous dites, ça, c'est le genre de coach que j'aimerais être parce que, pour moi, il représente telle valeur.
Non, mais je me fais influencer beaucoup par mes anciens entraîneurs, c'est sûr, des anciens coéquipiers. Mais, tu sais, écoute, mon père, ma mère, mais tu sais, comme j'écoute beaucoup de choses sur YouTube ou social media, des fois, des quotes d'inspiration, de motivation. Tu sais, puis c'est tout. J'absorbe ça, puis je le sors de ma manière. Tu sais, je lis des livres. C'est pas comme si. Ça, ces choses-là, ça s'apprend. Tu sais, je pense que. Moi, je crois pas que t'es né un leader. T'es né avec des qualités pour devenir un leader. Mais après ça, tu te fais influencer par ton environnement, puis le monde, puis à quoi tu t'exposes. Je sais pas si
c'est juste ça. Non, c'est très clair.
Fait que, je pense pas que je connais tout. Mais si je sais pas la réponse, mais j'ai besoin d'aide, je vais aller la trouver.
Avez-vous des loisirs? Allez-vous voir des films? Écoutez-vous la télévision?
Joue au golf.
OK, ça c'est toi, ouais. Joueur de hockey, joue au golf.
Ouais, joue au golf.
Écoutez-vous de la musique?
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous écoutez?
Ben, c'est comique parce que j'étais allé au show de Morgan Wallen samedi.
Mm-hmm.
Puis j'ai jamais été un gars de country, oui, vraiment. Non. Mais là, ça fait... je te dirais, cet été, là, ça fait six mois là, que là j'ai vraiment là, tourné sur le country, puis c'est à cause de mes enfants. Parce qu'on embarque dans le char cet été, puis c'est eux autres qui prennent la... Puis là, je dis, ah, c'est bon, c'est qui ça? Hein? Anyway, fait que c'est sur un kick de country. Là.
Avant, c'était quoi le kick?
Un peu de tout. Je peux pas dire que j'ai vraiment un genre, mais c'était pas country.
C'était du rock, c'est quoi?
Ouais, c'est un peu de tout. Honnêtement, là, je peux pas dire que c'est un genre.
Est-ce que vous allez voir des shows à part votre vedette de country?
Ben, je suis pas un gros gars de concert. Je suis pas un gars qui aime aller dans des grosses foules.
Ah.
Mais.
Centre Bell, c'est pas discret.
Non, non, je sais, mais on est, tu sais, on je suis gâté quand je vais au Centre Bell. Oui. Tu sais, je suis dans la suite. Je suis pas.
J'suis dans votre bulle, puis.
Exactement, tu sais, on est très gâté avec ça. Mais d'aller dans une grosse foule où ce que j'ai pas beaucoup de contrôle de mon environnement, j'ai jamais été confortable.
Faites-vous à manger.
Je suis capable de faire à manger. OK? OK? Ça, je suis très capable de faire à manger, mais encore une fois, très gâté. Tu sais, on a le déjeuner, dîner au Centre Bell. Fait que la seule repas que vraiment que... Puis ça, c'est quand on est à la maison, c'est le souper. OK? Puis moi je suis tout seul ici à Montréal. Là, mes deux plus vieux sont... Un est à l'université, un est junior dans l'Ouest. Puis... mon plus jeune est à la maison avec ma femme. Fait que moi, je suis tout seul. Fait que quand je reviens le soir à la maison, j'aime pas ça, souper tout seul. Fait que je vais tout le temps souper avec soit Kent ou un gars de mon...
Gord, parle de hockey.
Exactement. Puis mes assistants coach qui sont ici aussi.
Quand des gens comme vous deviennent entraîneurs du Canadien, j'en ai interviewé quelques-uns qui m'ont dit, une des premières affaires qu'on pense, on sait qu'un jour, ça va finir.
Mm-hmm.
On sait pas quand. On ne sait pas dans quelles circonstances. Est-ce que vous pensez à ça, que dès qu'on est entraîneur, il y a comme une date de sortie qui est écrite quelque part dans l'histoire?
Je te dirais que ce n'est pas quelque chose que je pense, mais c'est quelque chose que je le sais. T'sais? Puis honnêtement, j'ai jamais eu peur d'échouer. J'ai toujours... Puis même... si ça arrive que je perds la job, mais ça sera pas, pour moi, ça sera pas un échec. Ça va être un apprentissage. Fait que, tu sais, j'ai pas peur de ça. J'ai faim pour le succès. Puis, tu sais, ma vie avant ce job-là là, était très belle. Tu sais, fait que la journée que j'ai pu ce job-là, là, je vais retourner à ma vie. Tu sais, parce que je suis très... je dis pas chanceux parce que dans la vie, il n'y a rien qui arrive avec la chance. Je sais pas c'est quoi le mot. Privilégié d'avoir ma famille, des trois gars en santé, puis qui sont après, essayer de faire leur place dans ce monde-là.
Merci beaucoup.
Merci.
D'être venu ce matin. Martin Saint-Louis, l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
La fondatrice des restaurants Cora nous propose un livre qui s'appelle L'ordinaire endimanché. Cora Tsoukidou est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Bon, ça veut dire quoi, ça, l'ordinaire endimanché?
L'ordinaire endimanché, c'est parce que je me suis mis à écrire, justement, quand la pandémie est arrivée, des petites lettres à mes clients, parce que je pouvais pas leur servir de repas de déjeuner. On appelait ça des déjeuners de mots. On va vous écrire à toutes les semaines. Et mon thème favori, parce que c'était pas, on parlait pas d'affaires, on parlait de toutes sortes de petites choses qui se passent dans la vie. J'appelle ça l'ordinaire endimanché parce que j'écris tout ce que je vois, tout ce qui se passe, et je l'améliore en tenant toujours une conclusion très positive.
Mais vous avez toujours voulu écrire, ce que je comprends.
Oui.
Là, vous le faites, et vous le faites à tout moment de la journée.
le matin surtout, mais en tout moment, oui. À part de mes petits engagements que j'ai au bureau, là, parce que je suis encore le Chief Artistic Officer, ça veut dire que je prends soin de l'ADN de notre entreprise. J'écris. C'est vraiment, et ça remplit ma vie et surtout le plaisir que j'ai à enfin écrire des mots partout.
Vous parlez de beaucoup de vos souvenirs aussi, oui, votre oui. enfance, vos
tout
parents.
Sort.
Tout sort, mais c'est comme, oui, c'est comme oui. De dire, on sait que vous avez bûché dans la vie, que oui. vous êtes arrivé oui. à quoi, oui. 40 ans à peu près? Quand...
J'ai commencé mon premier restaurant à 40 ans, le jour de mon anniversaire. Et nous avons ouvert 150 magasins là facilement. Et j'ai toujours essayé de comprendre comment ça se fait qu'il y avait une femme d'affaires à l'intérieur de moi. Parce que j'étais une artiste, toujours. Je dessine, j'écris. C'est ça que je voulais faire dans la vie, être un écrivain, mais il y avait une femme d'affaires qui devait parler.
Mais comment vous avez réalisé que vous étiez bonne en affaires?
Je sais pas. Je pense que, savez-vous où j'étais bonne? J'étais bonne à... Il y a eu un transfert. Les mots sont devenus des morceaux de nourriture. J'ai complètement révolutionné le petit déjeuner québécois parce que on m'a mis dans une cuisine. J'ai acheté un petit restaurant pour survivre après un burn-out, puis le divorce, puis toutes les bebelles, les mauvaises choses. Et j'ai commencé dans la cuisine et j'ai carrément... complètement révolutionné le petit déjeuner québécois. Et je pense que c'est à cause de ma créativité.
On dirait qu'il n'y a pas eu beaucoup de place dans votre vie pour un homme.
Non.
Peut-être que c'est une bonne affaire, là, mais...
Il y a eu de la place pour un seul
oui.
et il n'aurait jamais dû être là. Alors, écoutez, après ça, il y a eu une vingtaine, 25 ans d'affaires où j'étais le développeur de l'entreprise. Puis tout ce qui m'intéressait...
Mais les enfants aussi.
C'était le prochain restaurant à ouvrir. J'étais vraiment... Et là, la pandémie est arrivée. Et en même temps que la pandémie, on a déclaré que j'étais à la retraite en même temps, beaucoup moins présente. Et effectivement, ce qui a manqué dans ma vie, c'est un homme, mais encore faut-il le trouver, cette perle rare.
Mais vous êtes capable, j'allais dire, de vous occuper, vous voyagez, vous êtes active, très active.
Totalement. Je suis très active, je me promène, j'ai été à un voyage en Gaspésie que j'ai tout raconté, et d'ailleurs là, je suis en train d'en planifier un autre, et ainsi de suite.
Vous avez transféré la direction de l'entreprise à votre fils.
Oui.
Question franche et honnête. Là.
Oui.
Ça s'est fait facilement, doucement, ou c'est comme vous arrachez le cœur?
Non, ça n'a pas arraché le cœur. Parce que moi, là, à un moment donné, on m'avait demandé de faire des conférences pour la transmission de la business en affaires. Et j'ai tellement entendu de petits vieux là, qui ont travaillé jusqu'à la dernière minute, juste à côté de la tombe, pour ne pas laisser leurs enfants être là, que je m'étais toujours dit... Non, c'est une bonne chose parce que j'ai créé quelque chose. Oui, j'ai commencé à 40 ans, mais à 60 ans, leur laisser entre leurs mains pour que eux autres puissent continuer. Je suis très fière de ça.
De faire ça, c'est une chose. De les regarder aller, puis de rester.
De les regarder aller.
Et de leur donner des conseils, d'intervenir, d'attendre qu'ils appellent.
Je pourrais vous dire que je gouverne l'artistique de l'entreprise, okay. Le message marketing, la qualité de la nourriture et des choses comme ça. Mais tout ce qui est la business, le modus d'opération et tout ça, c'est absolument pas moi qui fais rien dans ça.
Et ça vous manque pas?
Non, ça me manque pas. Mon garçon était l'opérateur de l'entreprise et il est encore très, très à cheval sur tous les principes.
Vous parlez de lui à un moment donné, vous dites il faisait des jobs à risque dans les restaurants que oui. Je n'aimais pas bien le voir couper la viande ou
Monter dans une échelle pour changer une lumière ou des affaires de même. C'est lui qui faisait ça parce qu'il me disait tout le temps, à chaque fois, j'aime mieux que ça soit moi qui tombe de l'échelle ou que moi qui brise quelque chose qu'un employé puis qu'on soit à risque de avec nos employés. Ça, c'est sûr et certain.
On dirait que depuis que vous avez du temps,
oui.
Puis en tout cas en lisant les billets en question, c'est comme si vous découvrez ou redécouvrez des choses que je dirais pas que vous avez négligées, mais
ah oui, totalement. J'ai le temps de réfléchir maintenant sur chacune des choses qui se passent. Ça, c'est sûr.
Vous réfléchissez à quoi de ce temps-là?
Ben à ce temps-ci, vous voyez, je suis en train d'écrire la fabrication d'un chef. Ça a parti où, ça, que soudainement, moi, j'arrive, j'achète un petit restaurant avec la vente de la maison, d'une maison, puis je commence. Puis comment ça se fait que je suis cuisinière, je suis à la cuisine les deux ou trois premières années, et soudainement, je deviens un chef. Je suis en train de faire cette lettre-là. C'est ça que l'écriture me donne le temps maintenant, de réfléchir comment sont arrivées les choses.
Je veux vous entendre sur le monde de la restauration actuelle, parce que ça a été difficile la pandémie, ça on le sait. Il y a eu aussi beaucoup d'employés de restaurants qui ont dit on ne veut plus travailler ces heures-là, c'est beaucoup trop, c'est les fins de semaine, c'est tôt le matin, c'est tard le soir. Des restos qui ouvrent maintenant 4 jours semaine. Mm-hmm. Vous avez travaillé 16 jours par semaine et tout ça.
Ouais.
C'est une autre époque, c'est terminé?
Est-ce que c'est une autre époque? Moi, je pense que quand on commence une entreprise, on travaille 100% de notre temps. Je peux pas me dire maintenant que je travaille moins dans le sens. Ce que je veux dire, c'est vous parlez d'heures ou de. Nous, on a un bel horaire de travail, autant pour tous nos superviseurs à travers le Canada que pour nos franchisés qui ont, comme on appellerait ça, je sais pas comment le dire en bon français, mais un chiffre de travail, 7h à 3h de l'après-midi. Ça a toujours été l'attrait pour faire de la restauration. C'est sûr qu'aujourd'hui, on sait que tout le monde a un peu copié le modèle Cora, mais ça fait que les gens font de la restauration, mais ne s'épuisent pas autant peut-être que les anciens. On pense aux Grecs de jadis avec les délicatessen qui ouvraient à 6h le matin puis qui fermaient à minuit du soir.
Faut que je vous parle de l'enlèvement de votre fils.
Oui.
On a suivi, comme tout le monde, le procès.
J'imagine.
Puis je veux vous entendre, quand vous recevez l'appel, qu'on vous informe que votre fils a été enlevé, puis qu'en plus de ça, il y a une demande de rançon de 11 millions. Comment vous avez réagi en prenant l'appel?
Premièrement, on a pas tout de suite su la demande de rançon, mais quand quelqu'un m'a parlé au téléphone pour me dire que avec une voix là toute comme dans qu'on voit ça dans les films, cher monsieur, mon cœur je peux pas vous définir. Bon, c'est comme si je perdais un enfant ou qu'il y a eu un accident épouvantable. Et cette fameuse nuit que nous avons passée chez la police, là, au centre de je sais pas quoi, ça a été la chose la plus effroyable de ma vie, de savoir que j'ai un enfant qui a été enlevé et de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe. je peux pas vous mentir, là, ça a été la chose la plus terrible de toute ma vie.
Et à quel moment la rançon a été demandée?
La rançon, nous l'avons appris plus tard, cette histoire de rançon-là, parce que il avait laissé quelque chose, une lettre sur la table. Mais je n'ai pas su ça dans cette soirée-là, moi. Non. Cette soirée qu'on a passée à être interviewé, à essayer de creuser qui aurait pu. Parce que je dois vous dire que le concept Cora et tous nos franchisés, nous n'avons jamais eu aucun problème
d'agressivité, de crime organisé qui aurait voulu vous intimider.
Oh, jamais, 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 jamais. Et même avec mes franchisés, j'adorais mes franchisés et pour eux, j'étais une bonne maman.
Avez-vous pensé que votre fils avait été enlevé parce qu'on voulait vous viser plus?
J'ai jamais pensé ça. Je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé ça.
Auriez-vous payé une rançon pour faire libérer votre fils?
Écoutez, je peux pas répondre à cette question-là, c'est pas arrivé, mais j'aurais donné tout ce que je peux avoir, puis mon cœur sur un plateau pour regagner mon garçon. Ça, c'est sûr et certain. J'aurais fait n'importe quoi.
Heureusement, ça a été de courte durée.
Ça a été de courte durée, oui. Mais ce qui a été le plus épouvantable, c'est en 2017 qu'il a été enlevé et on a su...
2022, je crois.
Ça a été épouvantable.
La durée des procédures.
La durée des procédures, ça a été épouvantable parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'on avait quelque part sur la planète un ennemi, comprenez-vous, ou une personne dérangée. C'est ça.
Et votre fils, comment il s'est remis de cette aventure-là?
Je dois dire que ça a été difficile. Ce qui a été surtout difficile, ça a été toutes ces années, justement, avant qu'on sache qui est le coupable.
Parce qu'il y a toujours un doute, tant qu'il n'y a pas de coupable. Est-ce qu'il a organisé ça lui-même? Est-ce qu'il a simulé un enlèvement?
Tout le monde peut dire n'importe quoi ou faire des romans policiers. Ça n'a pas été facile. Lui-même se demandait, on se demandait, mais qui aurait pu faire quelque chose comme ça?
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ça m'a fait plaisir.
Cora Tsouflidou, femme d'affaires, évidemment la fondatrice des restaurants oui. Cora Déjeuner. Le livre, c'est publié par Libre Expression, L'Ordinaire endimanché.
Endimanché.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Isabelle Haché de La Presse nous propose un livre, reportage et chronique sur une vingtaine d'années. Et on passe, de champs de bataille à également des drames dans plusieurs pays, puis aussi nos scandales locaux. Isabelle Haché, bonjour.
Bonjour.
Ça s'appelle « Là où bat le cœur du monde ». Je vais revenir sur des éléments spécifiques, mais d'entrée de jeu, quand on parle, par exemple, d'aller couvrir une guerre ou, par exemple, des territoires contrôlés par l'État islamique, vous dites, à chaque fois, je me dis, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? C'est toujours la même question?
Surtout au début, j'imagine. Au début, ouais, dans la vingtaine, quand j'ai commencé, il y a un des reportages qui est dans ce recueil-là où c'était quelques semaines, en fait, avant le début de la guerre, déclenchement officiel de la guerre en Irak. Et quand je suis arrivée au poste frontière turc, à la frontière de l'Irak, j'ai appelé mon conjoint, qui est toujours le même, là, ça fait 20 ans, et j'y ai demandé, je me souviens très bien de cette scène-là, d'être au poste frontière, il faisait froid. J'ai pris mon téléphone et puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me retourne en Turquie ou j'y vais? Parce que si j'y vais, c'est jusqu'au bout, jusqu'à la chute de Saddam Hussein. Et j'étais, je me suis vraiment posé la question à cette fois-là. Par la suite, je me suis posé aussi, évidemment, on se pose toujours la question, c'est toujours pire, en fait, avant de partir.
Et pourquoi on y va?
On y va parce que moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Depuis que je suis jeune, j'ai voulu faire du reportage terrain, j'ai voulu faire du reportage à l'international. Je pense que c'est important aussi de ramener ces histoires-là, d'être un peu le porte-parole des gens qui vivent ces drames, ces guerres, toutes sortes de choses sur le terrain. Puis c'est le fun quand même. Il y a peut-être une certaine adrénaline dans tout ça, mais moi, j'adore faire ce métier-là. Je l'ai dans les tripes.
Parlons justement des gens, parce que d'y aller, c'est une chose, puis quand on est sur place, on est plongé dans la vie des gens qui sont, par exemple, dans des villes, des villages où la guerre se déroule. Puis je lisais vos reportages, vos chroniques, je sais pas comment appeler ça, c'est pas de la résilience, parce que c'est un peu facile, je trouve, là, mais cette capacité qu'ont les gens, alors que la guerre se passe chez eux, de continuer à vivre, entre guillemets.
Mm-hmm.
Puis si on l'observe, malheureusement, j'allais dire souvent parce qu'il y a beaucoup de guerres, là, mais comment on explique ça? Qu'est-ce que vous avez retenu de ces contacts avec les humains là, qui sont dans ces pays?
Ben, je pense que faut dire que quand il y a la guerre dans un pays, il n'y a pas la guerre partout dans le pays en même temps. Je veux dire, ça saute pas partout. Je pense que les gens ils essaient de se déplacer dans des endroits plus sécuritaires. En Ukraine, les gens continuent à leur vie. Ça fait presque 2 ans, ça fait 1 an et 8 mois maintenant qu'il y a la guerre en Ukraine. Les gens continuent leur vie du mieux qu'ils peuvent. Sur les lignes de front, moi où je suis allée à Bakhmout, par exemple, c'est sûr que c'est très... quand tu débarques de la voiture puis tu entends les bombardements constants, à chaque peut-être minute, il y a des bombardements. Au début, c'est absolument terrorisant, mais je pense qu'on finit par s'habituer. Ça devient presque un bruit de fond. Moi, au bout de quelques heures, je faisais des entrevues puis je me suis rendu compte que ça continue à bombarder. On veut pas. Je pense qu'on s'habitue. L'être humain, je pense, s'habitue à tout. Cela dit, c'est sûr que j'habiterais pas à Bakhmout si j'étais ukrainienne, mais il y a des gens qui décidaient de rester aussi ou qui n'avaient pas le choix de rester. Il y avait beaucoup de gens. Il restait seulement quelques milliers de personnes sur cette ligne de front-là et c'était des gens qui étaient très démunis, souvent des personnes âgées, très âgées, qui avaient peur, encore plus peur de quitter leur maison que de rester là. Où est-ce que ça bombe?
Beaucoup de femmes qui ont fait du reportage dans des zones de combat ou dans des pays, disons, plus intégristes, disent que c'est extrêmement difficile, que par rapport à un gars, pour une femme, de se déplacer, de se sentir en sécurité, c'est complexe, c'est vrai?
J'ai jamais senti ça vraiment. Non. Ben, c'est sûr qu'il faut faire attention. Là, en Afghanistan, je me promenais pas en short puis en t-shirt dans la rue à Kaboul. Faut faire preuve de d'intelligence et de prudence surtout. Mais non, j'ai jamais vraiment senti ça. J'ai toujours senti que les gens, même les intégristes que j'interviewais, que ce soit en Irak ou dans des pays musulmans, là, des fois on va interviewer des gens qui sont très 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 conservateurs religieux. Je me souviens en Afghanistan là, ancien chef de la police des mœurs des talibans que j'étais allée interviewer chez lui. Ils ont tous voulu me rencontrer. Ils m'ont pas serré la main, évidemment. Mm-hmm. Mais je pense qu'ils me voyaient moins comme une femme
que
comme une porte-parole, justement, qui allait porter la voix, leur voix, en fait, à l'Occident. Donc, ils me voyaient plus comme une espèce de journaliste avant de me voir comme une femme. En tout cas, c'est comme ça que je rationalisais tout ça, là. Mais j'ai jamais eu de problème spécifique au fait que je sois une femme dans ces pays-là.
OK. Il y a aussi le volet, j'allais dire, de ces reportages où vous nous amenez dans des endroits. Je pense au Cambodge, je pense à des pays d'Afrique où il y a des phénomènes que nous, on pense disparus, que ce soit l'esclavage, que ce soit la sélection à la naissance, que les filles sont éliminées. Quand vous entrez, par exemple, dans cet univers d'orphelinat, où c'est des conditions qui n'ont pas de bon sens, là, comment vous vous sentez devant cette misère-là? On est supposé garder une distance, mais quand même.
Au Cambodge, je m'étais fait embaucher. En fait, j'avais acheté un billet d'une compagnie, une agence de touristes, en fait, qui vend du...
tourisme humanitaire.
Exactement. On appelle ça du volontourisme maintenant. Je suis allée incognito. J'avais pas dit que j'étais journaliste. Donc, j'ai acheté mon billet, 2 500 $ pour travailler 2 semaines dans un orphelinat au Cambodge. il devrait y avoir des sonnettes, des lumières rouges, des drapeaux rouges qui se lèvent à ce moment-là, parce que travailler dans un orphelinat, d'abord, c'est vraiment pas une bonne idée.
Non, pour deux semaines. Ouais. C'est encore pire, c'est parce encore qu'il y a un niveau d'attachement.
Exact. Les troubles d'attachement de ces enfants-là est vraiment extrêmement grave. Tu arrives là, il y a d'autres volontaires qui repartent, il y en a d'autres qui vont revenir après toi. Les enfants, tout de suite, quand ils te voient, ils te sautent d'un bras, ils compétitionnent pour ton attention. C'est pas normal. Mais toi, tu te sens bien parce que tu dis, ben, quand tu sais pas ce qui se passe vraiment, tu te sens bien parce que tu dis, ah, il y a besoin de moi, j'y donne de l'amour, tout va bien. Mais ça fait extrêmement, extrêmement de dommages à ces enfants-là. Et puis, il y a toute une industrie au Cambodge autour des orphelinats, des enfants qui sont même pas des orphelins. Il y en a de plus en plus. Il y a des centaines d'orphelinats dans les endroits touristiques, autour des temples d'Angkor, par exemple. Et c'est juste pour faire de l'argent. C'est un scam. Là, que ça, on attire les touristes, on donne des pamphlets, on attire les touristes pour aller donner de l'argent à ces enfants-là. Puis on les maintient dans un niveau vraiment de pauvreté, dans des endroits vraiment sales, pour que ces enfants-là fassent pitié pour avoir plus d'argent des touristes. Donc, c'est vraiment un très, très gros problème au Cambodge. Donc, moi, j'ai fait ce reportage-là parce que je voulais un peu conscientiser les gens, parce qu'il y a plein de jeunes
avec de belles intentions.
Exact. Ou pour faire pour que ça soit beau sur leur profil aussi. Facebook ou sur TikTok. Mais c'est une belle industrie, en fait.
Je veux parler aussi encore du sort de cette sélection à la naissance et avant même la naissance. Dans certains pays où la fille est perçue comme un fardeau et c'est pas juste dire ira pas à l'école, c'est carrément l'élimination de ces filles qui dérangent la famille.
Oui, mais c'est
bouleversant à lire ça.
Ouais, mais c'est un gros phénomène en Inde. J'avais fait ce reportage, je l'avais fait en deux volets, en Inde et en Chine. J'ai mis seulement l'Inde dans le livre parce qu'il fallait que je fasse un choix à un moment donné, mais c'est un phénomène important dans ces deux pays-là, entre autres. Et en Inde, évidemment, c'est parce qu'il y a le phénomène de la dot aussi, le fait que une fille, c'est presque un fardeau. Quand t'as une fille, tu te dis, bon, ben finalement, il va falloir que ça va me coûter cher, alors que un garçon, c'est plus un investissement. Tu vas avoir une dot, etc. Donc, c'est vu dans certaines parties de l'Inde comme un problème, vraiment. Donc, maintenant que les cliniques d'échographie sont vraiment très, très, très répandues là-bas, il y en a des milliers, là, vraiment des petits chacs quasiment sur le bord de la rue, là, où tu peux aller te faire une échographie pour quelques roupies. C'est devenu un énorme problème parce que les femmes se font avorter dès qu'ils savent que c'est une fille. Donc, avant, c'était un petit peu plus difficile, évidemment. Là, quand la fille naît, tu peux l'éliminer, mais ça devient un meurtre. Alors que là, bon, ça, c'est quand même un avortement, sauf que ça fait en sorte qu'il y a des débalancements énormes. Je me souviens d'être allée dans un village en Chine, dans le sud de la Chine, où il y avait juste des hommes de 30 ans, 35 ans. C'est compliqué aussi en Chine parce qu'il y avait la politique ethnique, ouais, en plus. Donc, il fallait vraiment avoir des garçons. Puis des villages complets sans aucune fille, ça crée énormément de problèmes, de la violence, de la dépression, puis en tout cas, toutes sortes de choses. Donc oui, on avait fait ça. C'est un des reportages les plus marquants que j'ai fait, je pense.
Revenons au Québec. Mission dans un centre de soins de longue durée en pleine COVID. Est-ce que vous êtes dit, j'y vais pas, ça
oh,
aussi?
Tellement! Plus qu'en Irak où... Ah oh non, là, j'étais un peu terrorisée la veille. Là. Au début, je me suis dit, oui, je le fais, mais la veille, que ce soit vraiment... parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Là. C'était juste au début de la...
C'est l'inconnu, là.
C'était au début de la pandémie. Ouais. Il y avait un hécatombe dans les CHSLD. François Legault disait on a besoin de bras. Il n'y avait plus personne pour travailler dans les CHSLD. C'était laissé complètement à l'abandon. Celui où je suis allée, la salle, presque plein d'employés sont partis ou sont tombés malades. Donc, il y avait presque personne pour s'occuper. Il y avait la moitié, je pense, des bénéficiaires qui sont morts. Puis il y avait presque personne pour s'en occuper. Donc, quand je suis arrivée là, j'étais plus une journaliste là, pour les gens qui étaient là, j'étais juste des bras. Ils s'en foutaient que je sois une journaliste. Puis ils m'ont fait travailler. Mais dès qu'on arrive là, moi j'avais peur au début, mais dès qu'on arrive puis qu'on traverse la ligne puis qu'on ouvre la porte puis on dit OK, ils ont besoin de moi, on oublie tout ça. Encore une fois, c'est un peu comme un reportage dans un territoire en zone dangereuse.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué
dans ce reportage-là, mm-hmm, en particulier? Oh mon Dieu. ce qui m'a marqué vraiment, c'est de parler aux gens qui avaient vécu. Parce que moi, je suis arrivée juste à la fin de la vague. Ça commençait à remonter, tu sais, il commençait à se reprendre en main. Mais j'ai parlé aux gens qui étaient là pendant l'hécatombe. Puis ils disaient, on marchait dans les corridors, puis on entendait les gens, la respiration des gens qui étaient en train de mourir, puis on ne pouvait rien faire. Et puis ces gens-là, là, c'est un infirmier, en fait, qui a pris les choses en main parce que les autres étaient partis. Les autres étaient soit avec quitté, soit étaient tombés malades. Il y en a un, celui qui était censé s'occuper de l'aile en particulier où je travaillais, était aux soins intensifs. L'infirmier lui a dit, OK, lui, il venait, je pense, du Burkina Faso, si je me souviens bien, mais je suis pas sûre, en tout cas, un pays d'Afrique, il faudrait que je vérifie. Puis il dit, moi, j'ai déjà vécu toutes sortes de virus, Ebola, tout ça, j'ai vécu ça, je suis capable. Tu sais, ça me fait pas peur. Fait qu'il a pris ça en main. Puis ces gens-là, le courage de ces gens-là, puis le fait qu'ils ont sûrement sauvé des dizaines de personnes âgées, ça m'a vraiment marqué.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Isabelle Haché, donc Là où bat le cœur du monde, reportage et chronique 2003-2023. Évidemment aux éditions La Presse.
Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à L'Essentiel de Paul Arcand sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.